Claude Ferval, une visite à la prison de Saint-Lazare. Connaissant le goût passionné que j'ai pour les vieilles pierres, mon ami le docteur X me proposa de visiter avec lui, avant qu'on en jette bas les murs, la prison de Saint-Lazare. Nous prîmes jour, un jour très prochain, car dès qu'un projet est agréé, on redoute les 1000 empêchements qui ne manqueraient pas de se mettre à la traverse si on leur laissait le temps. La date convenue se trouva être un matin de novembre, un de ces matins parisiens où le ciel chargé de nuées semble écraser les toitures. Une population nombreuse était dehors. Des ménagères, seules poursuivies pour la plupart d'un ou deux enfants, s'arrêtaient après des étalages débordés de fruits, de légumes, ou devant ces bonneteries à bon marché qu'on vend à l'entrée de l'hiver. Au croisement du faubourg Saint-Denis et du boulevard Magenta, un édifice se dresse, sombre, puissant, fortifié de hautes murailles. Dès le portail, on reconnaît le bâtiment administratif. De son fronton en triangle, pend la loque lamentable qu'est un vieux chapeau d'étain. « C'est ici !» murmura le docteur en faisant arrêter la voiture. L'idée que des créatures de mon sexe sont chaque jour en grand nombre amenées de force là, qu'elles y sont captées, clôturées, englouties dans le désespoir, me fit courir un indicible frisson. Le « Lasciate Aperanza » du poète me parut inscrit sur les murs. « Oh, mais vous jugez les choses trop en noir !» rassura le docteur, à qui j'avais fait part de cette première impression. « Saint-Lazare n'est pas le lieu terrible que crée votre imagination. Les femmes enfermées là sont la plupart du temps des passagères, détenues préventives, malades en traitement, condamné dans quelques mois suffisant à surgérer la peine. Le cauchemar des expiations sans fin me quitta pour l'instant mon esprit. Je respirais et à la suite de mon introducteur, je franchis le seuil redouté. La voûte est obscure et profonde. Dans un de ses renfoncements, une porte basse se niche, trapue, pareille à celle qui bouche les entrées de souterrain. Une sentinelle la garde, creuse du fusil à terre. Malgré ce qui m'avait été dit, je songeais qu'il ne doit pas être facile d'échapper à cette gueule de monstre, quand, par malheur, on s'est laissé happer par elle. Quelle demeure, en effet! Quelle paroi solide et rude! Une clé luisante fit deux tours. Le battant roula sur ses gonds et, après nous avoir livré passage, se rabattit lourdement. Nous étions à l'intérieur de la geôle. Dès l'entrée, une odeur, l'odeur spéciale au lieu de misère, compliquée ici de certains Rolands d'infirmerie, saisit la gorge. En même temps, on se sent enveloppé comme d'un brouillard par l'atmosphère grisâtre, la porte de demi-jour qui filtre chichement à travers les fenêtres encombrées de barreaux. Et comme je remarquais l'antique structure des barreaux, le gardien, chargé de nous accompagner, de renseigner nos curiosités, m'apprit qu'il provenait des démolitions de la Bastille. Admirons, pensais-je, l'économie de la République, qui ne laisse en rien perdre ce que ses premiers enthousiastes pour la liberté détruisent, qui pardonne prudente à son tour, en utilise les débris avec des restes de la fameuse forteresse royale, renforce ses propres prisons. Deux marches conduisent au greffe, salle d'attente glacée, où suint une humidité noire. C'est là que l'on reçoit des nouvelles venues, là qu'elles sont écrouées, pour employer le terme administratif. Les rafles de la nuit en avaient amené une vingtaine. L'ensemble était saisissant, laide pour la plupart, mais fardée, attifée avec des chignons proéminents, des robes aux couleurs voyantes. Les yeux de ces malheureuses, sombrement embusquées, qui disaient la fuite devant la poursuite policière, la lutte féroce, la fatigue d'avoir succombé finalement, me remirent en mémoire un banal bilan dont j'avais été autrefois témoin. Entre ces figures marquées de vices, de misère, une toute jeune se distinguait. La taille mince, les cheveux relevés en casque, la régularité grecque des traits font penser à une Diane égarée dans un carrefour. Tandis que les autres nous dévisageaient avec une curiosité hardie, les paupières de cette jeune fille ne s'abaissaient. Son coude relevé cache la rougeur de son front. Elle s'appuie au mur fortement, comme pour s'y enfoncer. Est-ce la peur d'être reconnue? Ou seulement a-t-elle honte d'être vue ici? Pauvre cher Candide et précocement sali. Entre le parloir, sorte de boyau infect, coupé du double grillage derrière lequel avocats, parents sont autorisés à visiter les détenus, et la cantine où celles qui ont quelque argent trouvent de quoi améliorer l'ordinaire, j'avance, timide, gêné un peu. Un fumet d'oignon s'échappe d'une vaste chaudière. C'est à qui s'en approchera, à qui obtiendra de la distributrice le meilleur morceau, la portion la plus copieuse. Un brouhaha de voix, de souliers, de vaisselle remplit la pièce sonore. Oh, le tapage est assourdissant. Soudain, la porte est franchie, et c'est un silence enchanté. Sur le préau calme et désert s'étend une longue galerie. Les fenêtres, dégagées ici de barreaux, laissent apercevoir de vieux arbres prisonniers eux aussi, qui cherchent avidement la lumière et dont les branches chétives tendent vers le ciel des gestes d'imploration. Autour d'eux, austères et fermés, s'élève l'antique quadrilatère bâti par les lazaristes. Couvert d'un badigeon et dépouillé des sculptures qui en faisaient l'ornement, il garde toutefois la noblesse des lignes primitives. Et sur deux des façades se dessine avec encore l'ellipse des cadrans solaires où les moines ont compté les heures de leur existence laborieuse. Des bancs de pierre, çà et là, évoquent l'image de pieux repos et la cloche fait songer aux appels répétés de l'office. Comme pour achever la résurrection de souvenirs conventuels, comme pour donner à nos esprits l'illusion d'être dans un lieu encore sanctifié, trois religieuses vinrent à traverser la cour. Vêtues de noir comme des ombres, elles marchaient, la tête baissée, en récitant leur bréviaire. Et au moment d'arriver près de nous, la politesse les interrompt. Elle lève les yeux et nous adresse un cordial bonjour. « Vous êtes venu visiter nos pauvres filles ?» fait l'une d'elles. « Oui, ma sœur, oui. Est-ce que cela ne dérange pas ? Au contraire, cela les distrait. » Profitant de ces accueillantes dispositions, je prolonge l'entretien et j'apprends que, sous le patronage de Sainte Marthe, ces bonnes sœurs sont spécialement consacrées aux soins moraux et matériels des captifs. Énigme de ces existences, qu'à leur propre bonheur, qui à leur propre bonheur préfèrent le soulagement du prochain, et qui, chaste, pure, choisissent les plus ignominieuses compagnies. Et pendant que nous causons, un détail de leur costume que j'avais pas remarqué d'abord m'apparut. Entre la guimpe blanche qui entoure le visage et le voile de deuil répandu sur les épaules, un bandeau bleu est fixé, doux, suave, de la teinte qu'a le ciel, certains matins de printemps. Surprise, cet azur, rayon céleste inattendu. Assurément, le fondateur de l'ordre était un poète qui eut l'idée, au milieu de l'abjection où il allait dispenser, percer ses filles, d'attacher à leur front cette petite fleur d'idéal. Puisse la sécheresse du temps présent ne pas l'y faire périr. Souhaitons qu'une main brutale ne vienne pas l'arracher. Et depuis la léproserie qui en l'an 1220, à leur retour des croisades, des religieux hospitaliers y fondèrent bien des fortunes diverses, se sont abrités entre les murs de Saint-Lazare. Au XVIe siècle, les chanoines y remplacent les lépreux. Puis le doux Vincent de Paul, 2 ans plus tard, établit là ses prodigieuses missions. Cette armée charitable, vaillante, qui allait parcourir le monde, enlever des âmes à la vie sauvage, au vice, à l'idolâtrie, le conquérir au vrai Dieu. Vient ensuite l'époque révolutionnaire, avec ces bandes affamées qui s'abattent sur le couvent, le pillent, en chassent les prêtres et leur douce retraite, font une antichambre de l'échafaud. De ce passé disparate, de ces saints, de ces forcenés, que reste-t-il aujourd'hui? Tout, si l'on ne considère que l'écorce, car la vieille bâtisse est debout, avec ses murs lézardés, son belvédère, ses cellules ensemencées de prières, ses longs cloîtres sonores, la fontaine où les captifs de 93 aux mains fines venaient lessiver leur linge, l'escalier de bois où, avec leurs compagnons d'infortune, elles échangeaient de saluts courtois, la porte basse, dite casse-gueule, sous laquelle leur nuque délicate ployait, tandis qu'une populace en bonnet rouge attendait, pour les tuer, le passage de la fatale charrette. Maints récits nous ont été conservés de ce que fut, pendant l'année terrible, l'existence des suspects qui avaient nom Flavigny, Maillet, Saint-Aignan, Montmorency, Roquelot, Rimisdal, etc., et dont la plupart devaient payer de leur tête le crime de porter ces noms, avec le même air d'élégance qui, quelques mois plus tard, s'harmonisait si bien avec les boudoirs aux trumeaux peints ou qui s'écoulaient leur vie mondaine, ces personnages de bon ton causent aujourd'hui plaisantes, soignent leur ajustement. Et dans une correspondance griffonnée au jour le jour, sur du papier à chandelle, sur des journaux de vieilles chemises, Roucher, le poète des mois, raconte de quelle manière ses compagnons conservent de la bonne humeur. Les uns lisent, dit-il, des ouvrages à la mode qui leur sont secrètement envoyés, Helvétius, Diderot, Jean-Jacques, parfois les sermons de Bossuet, d'autres brodent, écrivent, jouent de la harpe, du clavecin, selon que leur talent s'y prête. Le temps passe ainsi, et dans cette héroïque frivolité, ils oublient ce qui demain menace. Fouché lui-même, la veille de sa mort, trouve le courage, sous le portail que vient de terminer son ami le roi, de tracer d'une main ferme ce quatrain d'adieu à sa famille. Ne vous étonnez pas, objets sacrés et doux, si quelque air de tristesse obscurcit mon visage. Quand un savant crayon dessinait cette image, j'attendais l'échafaud et je pensais à vous. Enfermé, on ne sait sous quelle imputation, Hubert Robert, lui aussi, continuait d'exercer son art délicat. Après avoir fait sur ses toiles couler des fontaines limpides, après y avoir édifié des palais de féerie et mêlé de beaux arbres verts à des portiques en ruine, il s'inspire à présent de ce qui est sous ses yeux. Enfermé, on ne sait sous quelle imputation, Hubert Robert, lui aussi, continue d'exercer son art délicat. Après avoir fait sur ses toiles couler des fontaines limpides, après y avoir édifié des palais de féerie et mêlé de beaux arbres verts à des portiques en ruine, il s'inspire à présent de ce qui est sous ses yeux. Un de ses tableaux, conservé au musée Carnavalet, représente le jeu de ballons auquel s'égayaient captifs insouciants, ceux contre qui, haut colleté dans son carrick vert bouteille, Fouquier-Tinville dressait ses listes meurtrières, légèreté plus étrange encore de la part d'hommes, de femmes promis à une mort atroce et prochaine, ils s'aimaient. Oui, c'est au long de ces corridors qu'André Chénier rencontrait la belle Aimée de Coigny en jupe rayée blanc et rose, avec un corsage à basque recouvert d'un fichu de mousseline. C'est ici qu'il s'est pris des adorables cheveux blonds sur lesquels flottait encore un nuage, par souvenir de poudre. Et c'est dans la cellule où le 8 Thermidor devait retentir l'appel de son nom condamné, que le poète rime pour la jeune captive l'ode à jamais célèbre, quoique l'heure représente de troubles et d'ennuis. Je ne veux pas mourir encore. Ma bienvenue au jour m'en rit dans tous les yeux. Sur des fronts abattus, mon aspect dans ces lieux ranime presque de la joie. Mon beau voyage encore est si loin de sa fin. Je ne suis qu'au printemps, je veux voir la moisson. Ô mort, tu peux attendre, éloigne-toi, je ne veux pas mourir encore. Mais, si attendrissante que fut la plainte adressée au sort en sa faveur, la jeune femme y resta insensible. Peut-être son cœur d'aristocrate conserva-t-il même en face du trépas une morgue qui l'éloignait du pauvre rimeur. Peut-être, tout simplement, lui préféra-t-elle le jeune Monron, volage et joli comme elle. Quoi qu'il en fût, un destin privilégié détourna de leur très charmant lot la faux qui en avait abattu tant d'autres. Où mêlent toutes ces portes pareilles, rapprochées les unes des autres, ainsi que des sentinelles, ce sont les cellules. Avec l'œil appliqué au guichet dont chacune d'elles est percée, on distingue leur dénuement. Point de table, aucun objet de toilette, rien de ce que nos habitudes de propreté rendent strictement indispensable, rien que la couchette réglementaire et misérable, escabeau. À cette heure, la place est vide. Les détenus sont au travail. Sur ma demande, un atelier nous est ouvert. Plus de 100 têtes y voisinent, toutes coiffées du bonnet noir. À notre vue, ses têtes se lèvent, Des mains laissent retomber le linge qu'elle s'occupait à coudre. Draps, torchons, pose sur les genoux une nappe de blancheur. Et de l'estrade où elle préside, une religieuse nous invite à entrer. Oh, l'offre n'est guère attrayante, car des bouffées d'air fétide sortent de l'agglomération. Ben, il ne faut pourtant pas humilier ces pauvres femmes qui sont levées et qui attendent ni peiner la bonne sœur au voile d'azur. Et nous entrons, et nous prenons un apparent intérêt au travail des ouvrières. Au sortir de là, l'air frais de la chapelle nous fait l'effet d'une récompense. Peu de sanctuaires sont plus propres à réfléchir que celui d'une prison. Tout y est pauvre, dépouillé, en harmonie avec la piètre assistance pour qui le culte est célébré. On dirait que, pour se mieux approcher d'elle, Dieu ait abdiqué le luxe de ses églises et se soit fait misérable ainsi qu'il l'était en Judée. Un peu d'encens flottait encore sous la coupole aux vitres nues. Que de pardon, pensais-je, de consolation, depuis des siècles répandu ce parfum béni. Combien de pécheurs, sous ces fumées et humblement, se sont agenouillés. Si mauvaises chrétiennes que puissent être les pensionnaires de Saint-Lazare, il doit leur être difficile d'échapper à l'influence d'une religion qui mène au fond des cachots, ouvre de claires perspectives. Qui sait si, même ici, sur ces dalles de pénitence, de sombres âmes ne sont pas reprises à espérer. L'odeur des cuisines, au passage, nous arrête. Avec leur vaste fourneau, l'entassement de légumes, avec les cruches en grès vernissées dont la panse rebondie contient la fraîche boisson, elles ont un aspect d'abondance. Les pains eux-mêmes, pétris sur place, tout ronds ou barbouillés de farine, sont, ma foi, fort appétissants. Mais il faudrait pas savoir. J'eus la malencontreuse idée d'interroger notre guide. Quelle est la portion de nourriture accordée quotidiennement à chaque détenu? On ne sait pas, avec matin et soir, une assiette de soupe, me fut-il répondu. J'insistais. Et avec cela? Ben, c'est tout. Comment? Cette pitance de famine pour soutenir un travail de 10 heures? Sans doute, reprit le gardien. Mais si on les nourrissait davantage, ces femelles seraient encore plus difficiles à tenir. Je ne pus réprimer un regard hostile au torse qui remplissait à le faire craquer la tunique liserée de jaune. Et sur le reproche de ce coup d'œil, l'homme essaie de se justifier. « Oh, c'est pas qu'ici, à la vérité, on risquerait grand-chose, renforcer un peu le régime. » Mais il est le même pour tous les lieux de détention et ailleurs. Que voulez-vous dire? Ben voilà ce qu'on attrape, fit-il, en découvrant sur son front une cicatrice qui, sous l'ombre du képi, ne m'avait semblé que le pli des sévérités habituelles. Qu'est-ce là? Un coup de couteau qui m'a planté un détenu à la prison d'Albi où j'ai été gardien pendant 12 ans. Un retour de sympathie l'ayant encouragé, il raconta. Un jour, ils s'étaient tous mutinés. Plusieurs parvinrent à gagner la porte et s'enfuir. En retenant les autres, deux de mes camarades ont reçu des blessures mortelles. Moi, j'ai failli perdre la vue. Ce récit simple, sans forfanterie, faisait entendre l'autre cloche. Les idées d'ordre, d'équité reprenaient la place nécessaire dans mon esprit, inclinées peut-être à trop de compassion. Non, il n'y avait pas à mépriser cet homme qui honnêtement, courageusement, gagnait sa vie au service de la société. Saint-Lazare, côté des malades, fait oublier la prison. Au même titre que les autres hôpitaux, celui-ci mériterait le nom d'Hôtel-Dieu, que la gratitude populaire donnait autrefois aux asiles ouverts par la charité des fidèles. Les lits sont blancs, bien garnis, des formes calmes y reposent, une odeur pharmaceutique, assénilaire et refoule l'affreux relent qu'on serait tenté d'y sentir. Et au moment de notre arrivée, une religieuse infirmière portait sur un plateau des tasses de lait fumant. Une autre, en y posant une compresse, rafraîchissait un front fiévreux. Tout cela était pur, reposant. Tout cela détourna la pensée de ce qui eût été répulsif. On s'imaginait que la trêve accordée aux malheureuses, cette trêve qui, grâce au sens, soins des docteurs, aux bonnes paroles des religieuses, deviendra peut-être définitive, ajoutera la cure normale à la guérison des corps. Mais un spectacle est de nouveau faire basculer mon cœur indécis, le rendre à la pitié, rien qu'à la pitié, envers ces êtres sur qui pèse la force publique. « Voilà la ménagerie !» annonça Goguenard, le gardien. Effectivement, on se serait cru au jardin des plantes. Une rangée de cages, semblable à l'habitacle étroit des fauves, s'alignait au long d'un couloir. Sans doute, pensais-je, quelques cachots désaffectés restent barbares d'un autre âge. Erreur! Des créatures humaines séjournaient là, celles dont le caractère indomptable troublait la paix des dortoirs. La privation de liberté exaspère si terriblement certaines natures, me fut-il expliqué, qu'on en est réduit à les burer ainsi que des bêtes féroces. Et sur mon exclamation, « Oui !» continua mon interlocuteur, « jusqu'à quelle perversion peut-on venir l'instinct ?» Et sur le mur, strié en tous sens, son doigt me montrait écrite déclaration qu'avec un caillou, un clou, avec leurs ongles au besoin, les détenus auxquels l'encre et le papier sont soustraits s'adressent les unes aux autres. Je lus en effet des inanités, que d'innombrables noms. Irma, Claire, Lucie, Colette, Rose avaient signé des noms qui avaient été ceux du baptême, mais qu'on les sépare, accordai-je dans une nausée de dégoût, mais qu'on ne prive pas ces malheureuses de respirer. Ah, vous touchez là, précisément, fit observer le docteur, au point qui a décidé la chute de Saint-Lazare. Cette chute que vous regrettiez avant qu'ait commencé votre visite. Si ainsi soit-on du pittoresque, comment méconnaître l'incompatibilité qui parfois existe entre sa conservation et les nouvelles exigences de l'hygiène? Vous-même ne pouvez admettre que pour sauver un pan du passé, on continuera plus longtemps à étouffer les êtres vivants dans ces beautés locaux insalubres, atroces. Sans doute, mais plutôt que de détruire, ne pourrait-on pas éclaircir, améliorer? Faire des réparations à la vieille carcasse, bon, ce serait prolonger un système pénitentiaire en contradiction avec les idées d'aujourd'hui. Sur l'emplacement des murs lépreux, des voûtes à demi calcinées, des charpentes qui s'écaillent. Mieux vaut élever une de ces prisons modèles, où l'air circule, où le fer et le ripolin remplacent le bois vermoulu. Il fallait bien se résigner. Je consentis de tout mon cœur à ce que l'on supprimât l'impressionnant décor, les vieux murs chargés de souvenirs, si plus de clarté bienfaisante devait à leur place améliorer des sorts humains. Je m'inclinais devant la loi de progrès, qui veut des destructions et sans laquelle rien sur terre ne serait accompli de meilleur, de plus profitable. Mais une dernière étape allait m'enseigner que, changea-t-on la forme et la disposition des édifices, améliora-t-on le régime et l'hygiène des prisons, une barbarie subsisterait contre laquelle point de possible réforme n'apparaissait pour le moment. De jeunes voix avaient retenti, des gazouillements, tout un gentil bruit de volière. Une porte vitrée fut ouverte. Des enfants, dont l'âge exact ni le sexe n'étaient reconnaissables sous l'accoutrement de jupes trop longues, de pantalons recoupés de vieux châles qui les déguisaient, jaillirent, s'éparpillèrent, tourbillonnèrent autour de nous. Des enfants ? Quoi ? Des enfants ici ? M'écriai-je. Et même des nourrissons, fit le gardien, soudain paternel, en me désignant une femme qui allaitait un nouveau-né. Mais qui sont ces petits ? Ben voici l'explication. Tutère en même temps qu'implacable, la loi ne sépare pas les enfants de leur mère, condamnés, avant qu'ils aient atteint 4 ans. Et quelques-uns de ces innocents naissent à Saint-Lazare. D'autres y sont amenés en même temps que la coupable, et sur sa demande, s'il est prouvé qu'en dehors aucune protection ne leur serait assurée. Pauvres êtres assurément, reprit après moi le docteur. Et comment ne pas s'apitoyer devant cette mêlée de figures palottes ? Mais, moins malheureux qu'ils n'étaient avant leur arrivée, ici. Voyez les berceaux serrés contre la couche maternelle, la casserole de bouillie qui mijote en attendant le déjeuner. Voyez, plusieurs de ces petits ont encore à la main des tartines. Et comme ils s'amusent, comment ? Gentiment. Deux marmots, en effet, couchés à plat ventre sur le plancher, se renvoyaient l'un à l'autre une toupie en soufflant dessus de toutes leurs petites joues gonflées. Une blondine, sagement assise, habillait sa poupée. Un cartonnage de 2 sous autour duquel ses petits doigts roulaient adroitement un chiffon. Mais à notre entrée, tous les jeux furent abandonnés. De grands yeux s'écarquillèrent. Et les miens, donc. Après les enfants, je ne me lassais pas d'observer la physionomie des mères. Sous le sinistre bonnet noir dont elles étaient affublées, peu de traces subsistaient de ce qui avait été chez elles, quelques-unes peut-être grâce de beauté. Du moins, je fis cette remarque. Contrairement aux autres pensionnaires de Saint-Lazare, l'expression de celle-ci ne révélait rien de farouche ni de haineux. Celle notamment dont l'enfant était serré les bras avait un certain air content, une expression de fierté, mais presque, dont il était impossible de n'être pas ému. On eût dit que le cher fardeau, le gentil poids léger qu'elle portait, restituait à la personne une dignité. Par lui, par l'être qui les avait mis au monde, ces femmes se sentaient relevées, rétablies, dans une condition ordinaire. Sans doute, me dis-je, du temps qu'elles couraient la ville en quête d'un mauvais coup, ces malheureuses ne veillaient pas sur leur faible progéniture avec la sollicitude qu'elles y apportent aujourd'hui. Leur activité n'a plus d'autre emploi que d'être des mamans. Ces petits, d'ailleurs, ne sont-ils pas tout ce qui leur reste d'avoir été fermes et femmes ? Honnêtes, peut-être, aimées, oubliant soudain ce qui les avait conduites là, Je ne voyais plus en elle que ses mères, ces êtres de joie et de douleur que, pareillement, nous sommes toutes devant la chair de notre chair. M'approchant d'une sorte de bohémienne dont le teint cuit, les cheveux crépus, la rouge bouche exotique, était en matière reproduit par un gamin pendu à sa jupe, je m'informais « De quel pays êtes-vous »« D'Algérie, fit-elle, oh, il y a si longtemps. » Ainsi, je ne m'étais pas méprise. Cette épave humaine venait d'un rivage éloigné. Nul ne savait, pas même elle, quel mauvais courant l'avait jetée dans le gouffre parisien. « Et êtes-vous ici depuis longtemps ?»« 2 ans !» soupira la détenue de l'accent dont elle aurait dit « 2 siècles !» Puis, soudain, redressée, avec des éclairs aux prunelles, « Mais dans 2 mois, je serai libre !» Et avec un geste brusque où se devinait l'instinct migrateur, elle saisit la main de son gosse comme pour l'entraîner, pour le prendre à témoin de l'infini bonheur qu'ils auraient tous les deux à parcourir les grands chemins. « Et où irez-vous » demandai-je. « Quand savait-elle ?» Son geste indique à la fenêtre où les nuages déchiraient et laissaient voir un morceau de bleu. Et sur sa mine sauvageonne, il y avait cette mimique significative « Qu'importe !» Pourvu que ce soit ailleurs d'ici, ailleurs, hors de ces murailles abhorrées. La femme, qui tout à l'heure donnait le sein, était maintenant à bercer son bébé sur le point de s'endormir. À celle-là aussi, je posais une question, la première qui vient à l'esprit dans un lieu où les heures se comptent. « Depuis quand êtes-vous ici ?» Une année et il lui en restait 3 à faire. C'est long, hein? Pas trop. Je la regardais avec surprise. Sans doute, expliqua cette résignée. Pour celles qui, comme moi, ont la chance de garder leur enfant autant que dure la détention, cette détention ne se sent guère. Et en disant cela, elle enveloppait d'un indicible tendresse la petite face ordonnée dont les endormis, dont les joues pâles rappelaient ces fruits mûrs, nés mûris dans les climats sans soleil. J'allais me retirer après avoir obtenu un succès à en pleurer par ma promesse de jouets et de bonbons. Tout ce petit monde qui grouillait autour de nous avait des bouches souriantes. J'emportais de ma visite une impression finalement assez bonne, douce, lorsqu'un bruit de sanglots me fit brusquement et retourner. Une créature, jeune, robuste, avait enlevé de terre et serré contre sa poitrine un garçon grand de lait déjà. Qu'y a-t-il? Est-ce qu'il est malade, votre enfant? Non, fit-elle en redoublant son étreinte, mais il m'aura quitté demain. C'était l'échéance légale, la date où l'enfant aurait atteint l'âge prescrit. Me fiant à ce qui m'avait été dit de la brièveté des peines qui sont subies à Saint-Lazare, je bredouillais quelques propos consolateurs. Mais courage, vous l'aurez bientôt rejoint. Bientôt, répond la malheureuse avec une intonation que je ne saurais qu'oublier. Oh non, bientôt, maman m'envoie à Clermont faire 20 ans de travaux forcés. Et des larmes, de grosses larmes sans fin coulaient sur son visage de belle fille, tandis que, de toute leur faible force, les mains du petit gars s'agrippaient à elle. Oh, j'eus un sursaut. Quoi, ces êtres liés l'un à l'autre par quatre bras frémissants, ces bouches, ces cœurs réunis, allaient être séparés. Des murailles, des espaces, des années seraient entre eux. Que faire pour éviter cela? À qui m'en prendre? Près de qui implorer contre une telle rigueur? Le gardien, pour l'or à mes yeux, représentait l'autorité, la force pesante sous laquelle se débattait la pauvre mère. Me tournant vers lui, oh, fis-je, sans rien trouver de plus à dire, la sueur perlait à mes tempes. Devinant en moi un grand trouble, l'homme m'attira hors de la présence, la pièce, et quand la porte fut refermée, convint qu'en effet, la peine était accablante. Mais aussi, la femme était une criminelle. Son amant avait reçu d'elle une balle de revolver au moment où, en compagnie d'une fille soupçonnée d'être sa maîtresse, il quittait le cabaret. Régulièrement, elle aurait dû être transportée à la maison centrale aussitôt après sa condamnation. Et le cas de grossesse où elle se trouvait lui avait valu le régime relativement doux de Saint-Lazare. Elle avait fait ses couches et, depuis lors, bénéficiait de la tolérance qui laisse à leur mère détenue les enfants en bas âge. Et aujourd'hui, conclut le fonctionnaire, l'époque est révolue. Demain, après que le fourgon cellulaire aura emmené la prisonnière, le garçon sera conduit aux enfants assistés. Mieux aurait valu, observai-je, lui enlever son fils le jour même de la naissance, avant que le lien entre eux ait le temps de se fortifier. À présent qu'elle l'aime, que par lui, à cause de lui, par l'apprentissage maternel, cette coupable s'est rachetée, on centuple sa peine. Oh, mais cela est atroce, barbare. Raisonnable comme toujours et accoutumé à combattre les excès de la sensibilité féminine, le docteur intervint, substituant ses sages réponses à l'esprit de consigne auquel s'entretenait l'homme au liseré jaune. Il tenta de me persuader. En tout ceci, la vie, la loi n'avait en vue que le bien de l'enfant. Petit, on juge qu'il est en sécurité, mieux que partout ailleurs, près de sa mère. Mais il grandit, et les paroles, les mauvais exemples sont alors à redouter. D'ailleurs, serait-il juste que ces innocents soient maintenus en prison? Tout cela était vrai. Il n'y avait rien à répondre. J'étais atterré, cependant. À travers la cloison vitrée, je jette un coup d'œil sur ce qui, à l'arrivée, m'avait fait l'effet d'une volière. La pièce est vaste, bien aérée. Les petits, en gazouillant, se retournaient à leur jeu. Les mères bavardent entre elles. Que ma première impression, cependant, est changée. Une misère irrémédiable m'apparaît. Outre les yeux hagards des femmes, de la femme qui va perdre un enfant, et ceux du pauvre mioche crispé à retenir des larmes, je vois d'autres petits visages, presque tous mornes, incolores, avec des fronts bas, des pommettes aplaties. Que de lamentables laideurs! Sur ces traits avortés, on devine la triste hérédité de vice, la dégénérescence alcoolique, et surtout le malheur d'un âge qui voudrait s'égarer à trop grand air, et qu'un sort immérité enferme là, inutile, assimilée au coupable, une indicible pitié me bouleverse les entrailles. Ces têtes, ces petits corps, ces tendres fragilités promises à l'existence, que deviennent-elles? Qu'est-ce que l'avenir réserve à ces chétives enfances écloses entre les murs d'une prison? Quelle pauvreté future! Quel crime! Quelle maladie! Toute l'abomination humaine est j'en germe ici. Qui pourrait l'empêcher de croître? Il me sembla que ces tendres minois me suppliaient, demandaient grâce, que les faibles cours tendus attendaient de moi quelque chose. Mais quoi, mais que pouvais-je? Quel geste, quelle parole qui ne fût pas le néant? Le sentiment de mon inutilité m'oppressait. Je ne me sentais plus le courage d'assister en spectatrice à tant de détresse inconsciente. J'avais hâte d'être dehors, à l'abri des afflictions pour lesquelles j'étais impuissante. Vite, dans la rue, à l'assaut d'une boutique. Hélas, des bonbons, des jouets, le régal d'une journée. Voilà tout ce qu'il était en mon pouvoir d'offrir à ce petit peuple pâlot qui semblait me dire « Emmenez-moi !»